Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, 600 euros bruts par mois, c'est aujourd'hui le salaire d'un jeune professeur en Pologne. C'est deux fois moins que le salaire moyen, une situation invivable pour les enseignants qui se révoltent et lancent une grève illimitée dès ce lundi. Tout niveau confondu, de la maternelle au lycée, ce sont plus de 85% des écoles qui participent à cette grève. Les enseignants, parmi les plus mal payés de l'Union européenne, réclament une augmentation de 30% de leur salaire mensuel. À Varsovie, Thomas Giraudot a rencontré des professeurs grévistes qui racontent leur journée surchargée pour un salaire de misère.
Sur sa photo de profil Facebook, un pins avec un point d'exclamation noir sur fond orange, symbole de la lutte des enseignants. Judeta Rudnitska est professeure d'anglais depuis 15 ans à Varsovie. Ses 8 dernières années en école primaire.
J'arrive à l'école vers 7h30. Je me fais 2 tasses de thé car je sais que je n'aurai pas le temps de me faire la deuxième durant la journée. J'ai entre 3 et 8 heures de cours par jour. Entre les cours, je surveille les enfants, je discute avec eux. J'ai aussi 3 cours supplémentaires pour lesquels je ne suis pas payée. Puis je rentre chez moi et je passe plusieurs heures à travailler. Je réponds aux mails de tous les parents, j'organise les sorties scolaires, je prépare les prochains cours, je corrige les contrôles, les évaluations et je pense que je travaille bien plus que 8 heures par jour.
Judeta Rudnitska gagne 2500 zlotys net mensuels, moins de 600 euros. C'est un petit peu plus que la moyenne des enseignants, mais très loin du salaire moyen en Pologne, proche de 1100 euros.
Ce n'est pas un salaire normal. Pour être enseignant en Pologne, vous devez faire des études supérieures. Aujourd'hui, je suis moins bien payée que mes amis qui travaillent au supermarché. Je vis à Varsovie, la capitale. La vie est plus chère ici. Comparé à des pays d'Europe de l'Ouest, c'est vraiment ridicule ce que l'on gagne ici et ce que l'on va gagner au cours de notre carrière.
Même si les enseignants obtiennent l'augmentation de 30% réclamée par leur principal syndicat, leur revenu restera en dessous du salaire moyen polonais. Katarzyna Lenarczyk enseigne l'anglais à des lycéens.
Cette grève est unique. Il y en a eu une massive en 1993. Depuis, aucune révolte sérieuse des enseignants. Et nos revenus ont augmenté beaucoup moins vite que les salaires de tous les Polonais. Moi, par exemple, j'ai un master et 2 doctorats. Eh bien, je gagne 550 euros plus 200 euros d'heures supplémentaires. Avant d'être professeur, j'étais ingénieur du son. Dans ce métier, on gagne aujourd'hui 3 fois plus que moi.
Katarzyna a de l'expérience. Cela fait 7 ans qu'elle est professeure. Mais depuis la rentrée, elle fait face à une surcharge brutale de travail. Logiquement, Katarzyna devrait avoir 18 heures de cours. En réalité, elle en assure le double, 36 heures.
Les écoles à Varsovie font face à un manque absolument dramatique de professeurs, particulièrement en mathématiques et en anglais. J'ai déjà dû laisser tomber une de mes activités extrascolaires. Je donnais bénévolement des cours de polonais à des migrants. Et puis, je pense que malgré mes efforts, la qualité de mes cours diminue, parce que je n'ai tout simplement plus assez de temps.
Comme beaucoup d'autres enseignants, Katarzyna fera grève jusqu'à ce qu'elle obtienne une augmentation substantielle de son salaire, quitte à menacer la tenue du brevet des collèges. Il doit débuter le 10 avril, 2 jours après le début de la grève. De quoi normalement mettre en colère les parents. Certains pourtant soutiennent les enseignants, comme ce jour-là devant le bâtiment où se tiennent les négociations entre les syndicats et le gouvernement. Elżbieta Kielak est mère de 2 enfants.
Il y a eu une grève il y a 2 ans, quand la dernière grande réforme de l'éducation a été introduite. Et rien ne s'est passé, les enseignants n'ont rien obtenu. En fait, c'est le seul moyen pour que le gouvernement les entende. Si la grève était organisée à un autre moment de l'année, personne n'écouterait et la plupart des parents avec qui j'ai discuté comprennent cette grève.
Elżbieta Kielak connaît bien le sujet. Elle fait de la formation professionnelle, notamment auprès des enseignants.
J'étais ici, exactement dans ce bâtiment, il y a quelques jours, pour un atelier de travail avec des professeurs. Ils étaient très motivés. Ils sont venus durant leur temps libre, le week-end. Certains venaient de villes très éloignées en Pologne. Sans la motivation financière, un salaire décent, eh bien les jeunes ne veulent plus devenir enseignants.
Des professeurs ont déjà quitté les écoles publiques. À ses débuts, Edeta y a enseigné le français avant de travailler dans une entreprise, puis dans des écoles privées où elle est beaucoup mieux payée. Elle ne pense pas faire le chemin inverse.
À cause de l'argent, parce que j'ai eu un enfant ensuite. Mon fils est né, donc c'était déjà 2 enfants. Il faut toujours avoir de l'argent pour la famille. En travaillant à l'école privée, j'ai pu prendre mon avion et aller en France pour les vacances. En travaillant dans le public, c'était jamais possible.
Pour l'heure, le gouvernement a proposé des augmentations inférieures aux exigences du principal syndicat d'enseignants, arguant qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. Pourtant, le leader du parti au pouvoir, le PiS, Jarosław Kaczyński, multiplie les promesses de campagne très coûteuses en vue des européennes, mais en direction d'un autre électorat. Une forme de 13e mois sera versée aux retraités le mois prochain et les parents toucheront une allocation familiale d'environ 120 € par mois et par enfant dès le premier enfant. Aujourd'hui, c'est à partir du deuxième.
Pour la première fois, des officiers des services de renseignement de Bachar al-Assad ont été arrêtés alors qu'ils s'étaient réfugiés en Europe. Deux en Allemagne, un en France. Tous les trois sont accusés d'actes de torture et de meurtre. Derrière ces arrestations, on retrouve un seul homme, l'avocat syrien Anwar al-Bouni, qui a dédié sa vie à pourchasser les tortionnaires. Réfugié en Allemagne comme 800 000 de ses compatriotes, il a reconnu sur place certains sbires de Bachar al-Assad. Julien Michossi a pu le rencontrer à Berlin.
Le téléphone d'Anwar al-Bouni ne laisse jamais bien longtemps son propriétaire tranquille. Victime de tortionnaires du régime, journaliste, informateur, l'avocat syrien est un homme très demandé. Encore plus depuis les trois récentes arrestations spectaculaires en France et en Allemagne.
C'est la première fois que cela se produit. Personne ne pouvait s'imaginer que nous pourrions arriver à un tel résultat. Tout le monde a été surpris, y compris les tortionnaires. Après ces arrestations, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Et je peux vous dire une chose, la peur a changé de camp.
Installé en Allemagne depuis 2014, Anwar al-Bouni était un avocat célèbre pour son engagement en faveur des droits de l'homme en Syrie. Menacé, il s'est réfugié à Berlin avec l'aide du gouvernement allemand. Et depuis, il poursuit le combat d'une vie, mettre derrière les barreaux les auteurs de tortures, de meurtres et de crimes contre l'humanité en Syrie qui se sont réfugiés en Europe. Mais comment faire lorsqu'une victime se trouve par exemple en Suède et le criminel en Allemagne ? Avec l'aide du ECCHR, le Centre européen des droits constitutionnels et des droits de l'homme, Anwar al-Bouni a trouvé un moyen de faire des sbires de Bachar al-Assad des justiciables. Le principe de compétence universelle instauré dans le code pénal allemand de droit international en 2002 est héritage du procès de Nuremberg. Principe qui stipule qu'un crime commis à l'étranger par des ressortissants étrangers peut faire l'objet de poursuites.
Le travail que nous faisons est tellement vital, et pas seulement pour la Syrie. Notre combat est important pour le monde entier. À travers l'histoire, il y a eu tellement de criminels qui ont échappé à la justice. Et c'est justement à cause de cela que les criminels d'Al-Assad commettent tant d'atrocités. Ils n'ont pas peur. Ils se disent qu'ils s'en sortiront comme les autres. C'est le message que nous lançons. Le temps de l'impunité est terminé.
Depuis son petit bureau du quartier à la mode de Mitte, installé dans une ancienne usine investie par de jeunes créatifs, Anwar al-Bouni estime à un millier le nombre de tortionnaires syriens réfugiés en Europe, dont plus de 600 se trouveraient en Allemagne.
La plupart d'entre eux sont des déserteurs qui ont tourné le dos au régime lorsque la révolution faisait vaciller Bachar al-Assad. Après avoir stoppé leurs crimes, leurs meurtres, ils pensent que cela suffit d'avoir rejoint les rangs de l'opposition. Ils se sentent en sécurité ici.
D'anciens tortionnaires qui n'hésitent pas à exposer sur les réseaux sociaux leur nouvelle vie en Allemagne avec leur famille, mais certains continuent de soutenir le régime syrien depuis leur pays d'accueil. Comme sur cette vidéo que nous montre Anwar, celle d'un Syrien installé à Stuttgart et dans laquelle il menace directement ses compatriotes réfugiés en Allemagne.
Il dit que tous ceux qui ont trahi Al-Assad ont fait une grave erreur, que les fils de la Syrie présents ici ne sont que de la merde et que c'est pour ça qu'il leur fera manger la merde de Bachar. Je n'ai pas encore de preuves contre lui, mais je suis persuadé que je vais retrouver ses victimes, des témoins. Je suis sûr qu'il a commis des crimes. Sa manière de parler, les mots qu'il emploie, ce sont ceux d'un criminel.
Avocat enquêteur, Anwar al-Bouni recoupe preuves et témoignages avant de les remettre aux autorités allemandes. comme des détails très précis sur la structure hiérarchique des services de sécurité qu'il confronte à des vidéos, des photos prises dans les geôles du régime. Il s'appuie notamment sur le travail de César, ce photographe de la police militaire qui a risqué sa vie pour faire sortir de Syrie près de 50 000 documents concernant des détenus torturés à mort. Mais ces preuves matérielles ne sont pas suffisantes. Pour aller devant un tribunal, il faut des témoins.
Ce qui nous a permis de procéder aux arrestations, ce sont des témoins qui étaient en prison, qui peuvent décrire ce qui s'est passé avec ces morts, qui les a torturés. En recoupant nos informations avec les témoignages, nous pouvons établir les responsabilités, déterminer qui a donné les ordres.
Un travail de fourmi impossible à effectuer pour les autorités allemandes.
L'unité de lutte contre les crimes internationaux dispose de moyens extrêmement limités. Quelques personnes seulement, avec un petit budget. Seuls des Syriens peuvent recouper et vérifier des informations. Quelle prison, quel service de sécurité responsable, quel donneur d'ordre, etc. Même en travaillant pendant des années, aucun enquêteur allemand ne pourra réaliser ce travail. Les Syriens sont les seuls à pouvoir reconstituer toutes les pièces du puzzle.
Anwar al-Bouni connaît parfaitement les rouages du système répressif syrien. Défenseur infatigable des droits de l'homme, il est arrêté en 2006. Il passera 5 années en prison. Ironie de l'histoire, une fois réfugié à Berlin, il tombe nez à nez avec celui qui l'a kidnappé en pleine rue, un officier de haut rang des services de renseignement qui a déserté. Il fait partie des 3 hommes arrêtés il y a quelques semaines, une expérience qui lui permet de recueillir des témoignages.
I defense.
Pour moi, ce n'est pas difficile, car tout le monde me connaît et me fait confiance. Les personnes qui viennent me voir n'ont pas attendu la révolution pour être victimes des horreurs d'Assad. Elles l'ont été avant 2011, et le plus souvent, c'était déjà moi qui les défendais. J'étais leur avocat quand elles étaient en prison. Avant de venir me voir, la plupart se sont adressés à la police allemande, au service en charge des réfugiés. Ils pensaient qu'ici, leur témoignage ferait bouger les choses. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne lève le petit doigt. C'est comme si le monde se fichait de leur histoire. Et ils se disent que je suis leur dernier espoir, parce qu'ils savent qui je suis.
Et lorsque l'on demande à Anwar al-Bouni s'il a parfois peur pour sa vie, un grand sourire s'affiche derrière son épaisse moustache avant d'affirmer d'une voix pleine de sérénité « Si des hommes d'Assad venaient à me tuer ici en pleine rue, ils me feraient le plus beau des cadeaux qu'il soit. J'aurai atteint mon objectif, ils seront arrêtés et condamnés pour meurtre. »
Pendant ce temps, aux Pays-Bas, l'extrême droite et une partie de la droite disent sans phare leur ras-le-bol des réfugiés syriens. Malgré les risques que ces derniers encourent encore, elles plaident désormais pour que les quelques 70 000 réfugiés syriens repartent chez eux. Antoine Moutot.
Faites vos bagages et dégagez. Voilà le type de message ultra agressif que poste de temps en temps sur son compte Twitter Geert Wilders à l'attention des réfugiés syriens des Pays-Bas. Le nouveau parti nationaliste Forum pour la démocratie de Thierry Baudet est du même avis. Cette formation, devenue première force politique du pays aux dernières élections régionales de mars, avait fin 2018 déposé une motion au Parlement pour le retour en Syrie de tous les réfugiés syriens des Pays-Bas. Et même si ce n'est pas la majorité, désormais une partie des députés néerlandais disent espérer leur retour en Syrie. Le parti de droite libérale du Premier ministre Mark Rutte y a également fait allusion au cours des derniers mois. Pour l'extrême droite et une partie de la droite, cette revendication se justifie par la défaite annoncée de l'État islamique en Syrie. Mais voilà, du côté des réfugiés syriens, on entend un tout autre son de cloche. Selon une enquête menée par Ayn Fandar, une émission de la télévision publique, l'écrasante majorité d'entre eux ne veut pas quitter les Pays-Bas. 98% des 848 réfugiés syriens interrogés estiment qu'il serait dangereux pour eux de retourner maintenant en Syrie, minée par plusieurs années de guerre. Les jeunes Syriens en particulier craignent également d'être envoyés de force au service militaire et d'être ainsi mêlés à un conflit auquel ils ne veulent pas participer. Et puis surtout, 75% des réfugiés syriens déclarent vouloir rester pour toujours aux Pays-Bas. 64% disent déjà se sentir néerlandais.
Livre. C'est un livre, donc une bande dessinée ancrée dans l'actualité qui mêle le drame des migrants, la menace djihadiste et la question de la préservation de l'art. Une maternité rouge de Christian Lax raconte l'odyssée d'Alou, un jeune cueilleur de miel malien, jusqu'au musée du Louvre pour sauver une statuette d'Ogon des griffes des islamistes. Christian Lax qui nous explique d'abord la rencontre décisive entre Alou et les djihadistes.
On est en 2015, les djihadistes surprennent Alou en train de récolter ce miel, ils n'aiment pas ça. Ils font, en guise de représailles, exploser son baobab, parce que le baobab est un arbre sacré. Et dans l'explosion du baobab, Alou découvre cette statuette qui représente une petite maternité. Et bien sûr, il la cache dans son t-shirt et il part avec. Il va trouver le chef d'un village, qui est un personnage important, un sage, qui lui dit que cette statuette a une valeur incommensurable, selon lui, qui date du XIVe siècle. Et selon lui, là où cette statuette serait le plus à l'abri de toutes les exactions, c'est dans ce sanctuaire qu'est le musée du Louvre. Donc Alou, le jeune chasseur de miel, va se retrouver missionné, en quelque sorte, pour emmener cette statuette au Louvre.
Ce jeune héros, Alou, donc, quitte son village, non pour fuir la misère ou l'insécurité, mais bien pour sauver de l'art, la statuette.
Oui, parce que lui, bon, après tout, jusqu'à ce qu'il tombe sur ces djihadistes, il mène une petite vie bien tranquille, à récolter son miel, que sa sœur va vendre au marché, etc. Il a aucune raison de quitter sa région. Bon, alors c'est lui qui est chargé de faire le voyage jusqu'en France. Et ce voyage, il y a un circuit, c'est celui qu'empruntent les migrants.
Oui, vous racontez d'ailleurs un gris très élégant, juste brisé par le rouge de la statuette. Toute cette épopée, alors il y a le désert, le voyage en mer qui est aussi très dangereux. Il arrive en France finalement après des mois d'épopée. Il espère bien que cette maternité rouge devienne la clé de son acceptation en France.
En tout cas, il est obsédé par une chose, c'est la faire entrer au musée. Il tourne un peu aux alentours du musée. Il se retrouve hébergé dans ce camp de migrants qui est resté là à peu près 2 ans ou 2 ans et demi. Cette promiscuité, ce danger, cette précarité, il sait pas trop comment faire entrer sa statuette. Son obsession, elle est là, et des circonstances fortuites vont faire qu'il va parvenir à trouver un canal pour s'infiltrer au Louvre et donc aller présenter cette statuette à ceux qui sont susceptibles de l'accueillir, si tant est qu'elle en vaille la peine.
Oui, il est d'ailleurs assez décontenancé par l'attitude des experts, un en particulier qui s'appelle Claude, oui, qui a l'air bien plus intéressé par la statuette que par le parcours d'Alou.
Effectivement, et Alou est, il est à la fois ravi de voir que sa statuette, après avoir franchi pas mal d'obstacles, elle est prise en charge, elle est acceptée. Et Claude, qui est un homme porté par l'amour de son travail, par l'amour de l'art, il n'a de souci que pour cette statuette dont il faut prendre grand soin, sans trop s'inquiéter des souffrances qu'Alou a pu vivre et qu'il est appelé à vivre encore, parce que lui, son parcours n'est pas fini.
Alors pour écrire et dessiner cette bande dessinée, est-ce que vous êtes énormément documenté, notamment de ces camps de migrants qui ont été éparpillés à travers Paris notamment ?
Alors je n'ai côtoyé et brièvement que celui-là. Comme tout un chacun, je suis forcément au courant de tout ce qui se passe. Tout ça nourrit ma réflexion. Et au quai d'Austerlitz, j'ai notamment parlé un bon moment avec un jeune Saoudien qui avait fait un périple un peu similaire. J'ai pas eu d'autres contacts que cela.
Pourquoi vous avez choisi de mêler finalement 3 thèmes d'actualité très forts ? Donc la migration, le terrorisme, la question de l'art justement. Est-ce que l'art est plus important que la vie ?
Pas plus, mais pas beaucoup moins. Enfin, c'est important de conserver nos patrimoines artistiques parce qu'ils nous disent d'où on vient. Et peut-être que ça peut contribuer à nous aider à imaginer où on va.
Christian Lax et sa maternité rouge. La bande dessinée est publiée chez Futuropolis et Louvre Éditions. Merci de nous avoir suivis à la réalisation et la mise en onde de Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr à l'onglet podcast et sur Facebook.